VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
11h à Nouakchott, midi à N'Djamena, bienvenue à notre journal. En Côte d'Ivoire, élection présidentielle le dimanche 25 octobre. 7 candidats sont en lice et le président sortant Alassane Ouattara est donné favori. Il mise sur son bilan économique de grands travaux et d'exploitation des richesses naturelles. Tatiana Mosso.
En 4 ans, Alassane Ouattara a profondément transformé le pays et notamment le visage de la capitale Abidjan, toujours en pleine mutation. Misant sur les infrastructures, des zones entières ont été rasées pour faire place à de gigantesques chantiers de construction tels que l'autoroute reliant Abidjan et Yamoussoukro et le chantier énorme du troisième pont d'Abidjan. Mais il est reproché à l'actuel président candidat d'avoir privilégié les entreprises étrangères au détriment des entreprises ivoiriennes. Ces dernières ont d'ailleurs été l'objet de toutes les convoitises durant cette campagne électorale, chaque candidat y allant de ses promesses pour obtenir la confiance du vote du patronat ivoirien. Enfin, dernier point noir sur le tableau plutôt positif du chef de l'État sortant, le chômage. Les chiffres annoncent environ 30 à 40% de taux de chômage et les jeunes diplômés sont les premiers touchés.
En Guinée, au moins 13 personnes tuées en moins d'une semaine dans les violences, peu avant et peu après la présidentielle du 11 octobre. C'est ce qu'a rapporté jeudi Amnesty International. Claire Morin-Gibourg.
Ce bilan, établi pour la période du 8 au 13 octobre, comprend 6 morts à Conakry, la capitale, et au moins 7 à l'intérieur du pays, selon un communiqué de cette organisation de défense des droits de l'homme, publié au dernier jour d'une mission d'enquête de 2 semaines en Guinée. Parmi les 6 personnes mortes à Conakry, 3 ont péri dans des affrontements entre sympathisants de partis rivaux qui ont aussi fait au moins 80 blessés, indique le texte. De même source, dans le reste du pays, au moins 7 personnes ont perdu la vie dans les mêmes circonstances. Les autres décès enregistrés dans la capitale sont 3 personnes tuées par les forces de sécurité, a précisé lors d'une conférence de presse Stephen Cockburn, directeur adjoint du bureau régional d'Amnesty pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Il s'agit de 2 jeunes hommes qui ont reçu des balles dans le dos et un autre jeune homme qui a été battu à mort avec des matraques, a expliqué M. Cockburn.
Mauritanie, le PAM, le Programme alimentaire mondial, s'inquiète de la situation de fragilité alimentaire et nutritionnelle dans le pays. Un problème affectant plus d'un million de personnes. Les explications du directeur du PAM en Mauritanie, Jeanne Souvanto, au micro de Dili Diko.
Notre rôle ici à donner notre soutien technique, et donner le soutien pour leur stratégie et aussi plaidoyer pour les ressources de côté gouvernement et également de notre bailleur de fonds. Actuellement, les ressources ne sont pas suffisamment. Le plan original côté PAM, on devait adresser les problèmes de sécurité alimentaire sur 8 wilayas, mais en effet, on est présentement sur 5. Également, le gouvernement, il essaie de faire le meilleur. Mais presque une sur 4 citoyens est touchée par un problème de la sécurité alimentaire et c'est difficile d'avoir toutes les ressources pour couvrir tous les besoins.
Au PAM, comment faites-vous la distinction entre la fragilité alimentaire et la crise alimentaire? Quand est-ce qu'on bascule de la simple fragilité vers la crise?
Quelquefois, ce n'est pas si facile à dire quelle est vraiment la différence, mais actuellement quand même, les personnes qui sont dans insécurité alimentaire sévère sont à peu près 200 000 personnes. Et en plus de ça, il y a presque 700 000 personnes qui ont un problème modéré.
Et aujourd'hui, est-ce qu'on va plus vers une crise ou une amélioration de la situation en Mauritanie par rapport à l'insécurité alimentaire?
Actuellement, on est en train de travailler avec le gouvernement et les partenaires pour adresser ce problème. Bonne chose est que la saison de pluie a été relativement beaucoup mieux que l'année dernière. Et ça porte normalement un changement positif.
Est-ce que vous mettez en place des programmes de résilience afin que les Mauritaniens puissent s'autosuffire alimentairement?
Oui, ça c'est notre programme principal pour la population plus vulnérable mauritanienne. Renforcer par exemple leur système d'irrigation, qu'ils pourraient faire plus d'irrigation dans les zones où c'est possible, où ils peuvent utiliser le maraîchage par exemple, soit injection de cash pour les groupes de femmes qui peuvent utiliser les produits de base et éventuellement vendre des produits refinés dans dans le marché, par exemple.
Jeanne Souvanto, directeur du PAM en Mauritanie.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Congo-Brazzaville, l'opposition au référendum de dimanche a annulé la manifestation qu'elle comptait organiser aujourd'hui pour protester contre le scrutin. Consultation qui pourrait se tenir sans le dialogue exigé par l'opposition et la société civile et recommandé par l'ONU et l'Union africaine. Mais le président Denis Sassou Nguesso a fait un geste d'apaisement à l'égard de l'opposition, souligne notre correspondant à Brazzaville, Nguela Ngoussou, au micro de Chérubin Dorsil.
En effet, l'Église catholique, l'archevêque de Brazzaville, Monseigneur Arnatole Lando, a été désigné par le président Denis Sassou Nguesso pour pouvoir ouvrir la médiation entre les deux forces afin de voir comment apaiser la tension au niveau de Brazzaville.
Et le calme prévaut encore à Brazzaville?
Hier, jeudi, il y a eu le calme et aujourd'hui, en principe, ce vendredi, il y va avoir des manifestations de fin de campagne référendaire. Mais un communiqué du gouvernement annule donc toutes les manifestations, donc aucune manifestation, pour justement permettre que le dialogue ait lieu et que la tension soit vraiment apaisée à la veille.
Donc le référendum aura bien lieu dimanche?
Pour l'heure, oui, c'est ce que le gouvernement annonce.
Notre correspondant à Brazzaville, Nguela Ngoussou. États-Unis, l'ancienne secrétaire d'État américaine Hillary Clinton a passé la journée d'hier à répondre aux questions des membres d'une commission spéciale d'enquête du Congrès de Washington sur les attaques du 11 septembre 2012 contre le consulat américain à Benghazi en Libye. Ces attaques avaient coûté la vie à l'ambassadeur Christopher Stevens et à trois autres Américains. Le compte-rendu de Lionel Gaïma.
La commission est dominée par les républicains de la Chambre des représentants. Son président, Trey Gowdy, est conscient des allégations selon lesquelles l'enquête actuelle répond à des considérations de politique politicienne. Il a ouvert ses audiences publiques par une défense énergique de sa commission et de ce qu'il a différencié des autres commissions d'enquête. Selon lui, les précédentes n'étaient pas exhaustives. Cette enquête, a ajouté M. Gowdy, ne visait pas personnellement Mme Clinton, mais plutôt à découvrir la vérité sur la demande du consulat américain pour davantage de sécurité, équipement et personnel. Elle vise aussi à savoir ce qui était discuté à Washington pendant l'attaque. M. Gowdy a également fait allusion à la controverse sur les emails de Mme Clinton, à qui on reproche d'avoir eu recours à des comptes privés pendant qu'elle était à la tête du Département d'État. Madame la secrétaire d'État, pas un seul membre de cette commission ne s'est engagé à faire une enquête sur vous ou vos emails. Nous nous sommes engagés à mener une enquête et honorer ainsi la mémoire de quatre personnes que nous avons envoyées dans un pays dangereux pour nous représenter. Madame Clinton, qui est candidate à la présidentielle de 2016, était chef de la diplomatie américaine lors de ces événements. Elle a adopté un ton conciliant dans ses remarques, rendant elle aussi hommage aux quatre disparus et promettant d'aider la commission à déterminer les facteurs qui ont mené aux attaques de Benghazi.
Malgré toutes les précédentes enquêtes et tous ces discours sur des agendas partisans, je suis ici pour rendre hommage à ceux que nous avons perdus et faire tout ce que je peux pour aider ceux qui continuent d'être au service de leur pays. Le défi pour vous, membres de cette commission, est le même que je me suis fixé. Soyons à la hauteur de la confiance que nous fait le peuple américain. Il attend de nous de diriger, de tirer les bonnes leçons qui s'imposent, de nous hisser au-dessus de la politique partisane et de faire preuve de qualité d'homme d'État.
Si les républicains assurent être en quête de vérité, les démocrates les accusent d'acharnement contre la favorite de l'investiture démocrate pour la Maison-Blanche, le député Elijah Cummings, principal membre démocrate de la commission. Le problème est que le groupe parlementaire républicain n'a pas eu la réponse qu'il voulait des précédentes enquêtes. Alors, il a créé une commission spéciale sans règles, ni délai fixe, un budget illimité pour la jeter sur vous, Madame la secrétaire d'État, parce que vous briguez la présidence des États-Unis. En tout état de cause, les sondages se sont améliorés pour Hillary Clinton depuis le débat télévisé de la semaine dernière, un facteur peut-être dans la décision du vice-président Joe Biden de ne pas se lancer lui-même dans la course.
Et pour terminer la lutte contre Boko Haram au Nigeria, au moins 28 morts et 20 blessés. Tel est le bilan de l'attentat suicide aujourd'hui à Maïdougouri, berceau du groupe islamiste Boko Haram dans le nord-ouest du pays. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com ou alors sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.